Je me souviens quand j'étais ici le mois de janvier, surtout le dimanche, on est venu, vous avez eu une journée fraternelle. C'est ça le moment où vous avez, comment dire, pas inauguré, mais Timothée et l'église de Sarcelles, ils étaient tous ici. Donc on a passé toute la journée ici. Et j'ai vraiment des bons souvenirs de ce jour-là. J'étais vraiment touché quand j'ai vu. Le soir-là, j'ai demandé à Timothée combien de nationalités étaient représentées ce soir, ce jour. Et il a compté au moins 9. Et il y avait, je pense, 2 vrais Français ce jour-là.
Il y avait moi.
Vous étiez là?
Oui.
D'accord. Mais vraiment, quand j'ai vu une église comme j'ai vu ce dimanche-là, j'étais touché par l'amour de voir toute l'assemblée de toutes, pas toutes les nations dans le monde, mais presque, qui étaient ici dimanche, louant le Seigneur, aimant les uns les autres. C'était vraiment formidable et je ne peux pas imaginer ce que ça va être quand on arrive au ciel, avec des gens qui viennent de toutes les tribus du monde. Frères et sœurs en Christ. C'est vraiment formidable. Mais quand j'étais ici la dernière fois, je vous ai donné mon témoignage. J'ai parlé à quelque chose qui m'a tellement... J'étais vraiment passionné sur ce sujet. Et c'était sur... l'obligation que Dieu nous donne de lire la Bible une fois par mois, n'est-ce pas? Une fois par semaine. Quand? Journalièrement. Jour après jour, après jour, après jour. Nous habitons dans un monde incroyablement perverti, maudit. Et nous ne pouvons pas vraiment avoir la force de pouvoir constamment être dans le monde sans se noyer si nous n'avons pas la nourriture quotidiennement. Et il y a à peu près 15 ans que j'ai commencé à lire dans ce livre les rendez-vous du matin. Chaque jour, je lis ça. Avant de lire la parole de Dieu. Et l'homme qui a écrit la présentation a écrit quelque chose et je veux simplement partager avec vous que je pense peut-être pour nous une bonne aide pour nous encourager de passer le temps quotidiennement dans la parole de Dieu. Il dit, face à l'incertitude de la vie, de tous ces instants, il est bon de savoir qu'un rendez-vous existe, à la fois sûr et incertain. Quelle bénédiction il y a, dès le commencement du jour, de mettre à part un temps pour chercher à rencontrer d'une manière particulière. Après tout, n'est-il pas ultimement l'auteur de tous les rendez-vous? Mais le Seigneur viendra-t-il? Acceptera-t-il de se manifester à notre âme? Tant d'obstacles semblent vouloir obstruer notre vue. C'est pourquoi il est bon de mettre un temps de côté, merci beaucoup. De mettre de côté, spécialement dans la perspective d'avoir un tel rendez-vous. Un rendez-vous communique l'idée de détermination, de convocation, de préparation et d'anticipation. Il est bon de chercher la face de Dieu en étant animé par de tels sentiments. Lui-même se plaît rencontrer sa créature, mais il n'est pas une sucette comme ma chouille. Sans réfléchir, au contraire, il est l'objet des désirs les plus exaltés de l'être humain. Il n'est pas non plus question de procéder à quelques petits rites religieux, en lisant une page de méditation par matin pour se sentir bien. Il n'y a nulle vertu à faire du kilomètre afin d'apaiser une quelconque divinité outragée par notre indifférence. À quoi sert aussi d'avoir fait son petit truc avant de poursuivre la journée sans même penser à Dieu? En elle-même, une page de lecture n'a jamais sauvé quelqu'un. En revanche, elle en a certainement amené beaucoup. Non, les lectures quotidiennes sont un instrument. Elles font face avec réalisme à un fait de la vie, savoir que nous ne sommes pas toujours d'humeur à entrer immédiatement dans la présence de Dieu. Bien souvent, il faut commencer par amorcer la pompe et mettre l'esprit en forme. Quoi de mieux pour cela que de réfléchir quelques instants sur un passage de la parole de Dieu? C'est là l'antichambre, la clé, la fenêtre qui ouvre de nouveau panorama et horizon. Ces méditations quotidiennes éclairent aussi le paradoxe du chrétien. Il vit au sein d'un monde maudit et d'une race déchue. Il est lui-même très loin de la perfection, il n'en est pas moins un optimiste indomptable. Il ne sait pas comment va tourner ce rendez-vous matinal avec Dieu. Ce dernier se plaira-t-il à se manifester? Retiendra-t-il le sentiment de sa présence? Qui peut dire sur quelle puissance dans la prière ce moment de méditation débouchera? Dieu est présent, cela est sûr, mais sous quelle forme? Et il continue. Et il y a plusieurs fois, quand j'ai lu ce passage, c'est justement le moment où j'en ai besoin. Et tout à l'heure, je vais lire une méditation qui m'a vraiment complètement changé la vie et qui m'a changé mes pensées en ce qui concerne les épreuves dont nous sommes obligés de passer. Actuellement, qu'est-ce que Dieu a dit concernant les tribulations? Il a dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si vous voulez, ouvrez vos Bibles. On veut voir un homme qui avait passé par des épreuves, un homme qui était même un prophète. Mais il arrivait à un moment, il semblait que Dieu l'avait abandonné. C'est le prophète de Jérémie, dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Mais avant de lire chapitre 3, je veux lire un verset de chapitre 2, verset 19. Chapitre 2, verset 19. Et puis on va lire les premiers 20 versets de chapitre 3. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim. Maintenant, chapitre 3, verset 1. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit même dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os, il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres. Comme ceux qui sont morts dès longtemps, il m'a entouré un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade. Un lion dans un lien caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. La paix et le bonheur. C'est ce que tout le monde cherche, n'est-ce pas? Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Je pose la question, est-ce que vous avez jamais expérimenté ces épreuves? Est-ce que vous avez jamais passé des épreuves comme cet homme? Est-ce qu'il y avait vraiment dans votre vie chrétienne où vous avez pensé que vous n'avez plus la paix, tu connaissais plus le bonheur, vous n'avez plus d'espérance en l'Éternel? Vous avez commencé à questionner, est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce qu'il m'écoute? Il ne me voit pas? Il ne voit pas ces épreuves, ces problèmes par lesquels je passe? Jérémie était là. Et dans le Nouveau Testament, nous avons dans le livre de Philippiens, si vous voulez tourner au Philippiens, chapitre 4. Nous connaissons tous ce passage. À partir de verset 4, la Bible nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Mais ne vous inquiétez de rien. Donc la Bible est très claire que les chrétiens ont des soucis. Mais quoi faire quand Dieu nous envoie des épreuves? Et ce passage nous donne quatre étapes, quatre marches à faire quand nous nous trouvons dans des situations où nous nous inquiétons, nous sommes tellement vexés, tellement agités, nous ne savons plus quoi faire. Il dit que ne vous inquiétez de quoi? De rien. Donc la Bible nous interdit de nous inquiéter. Elle est interdite aux enfants de Dieu d'être inquiets de cette façon. Le passage décrit ensuite ce que nous devons faire à ce sujet. Tout comme nous ne devons pas nous inquiéter de rien, alors Dieu nous fournit quelque chose que nous devons faire obligatoirement. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Et ce qui suit sont quatre choses que nous devons faire en communiquant avec Dieu. Donc, il dit, premièrement, de quoi faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand nous voulons nous inquiéter? Faire connaître nos besoins à Dieu. Comment? Par la prière. Qu'est-ce que la prière? Ce terme prière désigne le terme le plus général utilisé pour parler avec Dieu, mais ce mot signifie que nous devons faire taire nos cœurs devant le Seigneur. Souvent, on est tellement bouleversé, tellement agité, nous ne pouvons pas nous calmer devant le Seigneur. C'est comme un petit enfant qui jouait dehors, et il rentre dans la maison, il est en train de crier, « Maman, maman, il y a quelque chose qui arrive !» Elle crie, elle crie, elle crie, et finalement, la mère a dit, « Tais-toi, calme-toi, assieds-toi. » Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Quand nous sommes tellement agités, nous ne savons pas quoi faire, Dieu dit, calme-toi, et puis, parle-moi, dis-moi. Mais il faut premièrement nous calmer devant le Seigneur, avoir une attitude de respect et d'humiliation quand nous venons à lui pour prier et pour demander des choses dans la prière. Es-tu la prière? C'est une approche que nous devons avoir quand nous parlons à Dieu. En toute chose, par la prière, vous obtiendrez une bonne atmosphère dans votre cœur. Mais il y a une deuxième chose. C'est quoi? On prie comment? Par des supplications. Qu'est-ce que ça veut dire, supplication? Quand nous, ma femme et moi, nous étions en Afrique, je me souviens la première fois qu'un mendiant, quand j'ai vu un mendiant, il était là devant un tas de déchets et il était en train de chercher à quoi manger. Et quand nous marchions, il se retourna et levait les yeux vers nous suppliant pour la nourriture. Et il a dit tout simplement, monsieur, s'il vous plaît. C'était un vrai mendiant. Et ce terme veut dire que c'est ce que nous devons faire. Nous sommes des mendiants. C'est tout. Nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu et nous devons venir à Christ comme ça. Nous sommes dans une situation et nous savons si quelqu'un ne nous donne pas la nourriture, nous allons mourir. Donc nous disons, oui, c'est vrai, c'est mon cas, c'est pourquoi je m'inquiète. Je n'ai rien à manger. Et c'est pourquoi si nous continuons à nous inquiéter, nous n'avons vraiment pas pris la position d'un mendiant. Parce que nous n'avons pas vraiment donné nos soucis à Dieu. Et que nous, absolument, nous pouvons rien faire. Mais ce mendiant, il savait. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est demander. Et Dieu nous dit que nous devons venir à lui avec cette attitude, cet esprit d'un vrai mendiant. Donc, quand nous constatons que nous avons tous ces fardeaux pesants sur nos esprits, et il nous contrôle toutes ces émotions, et nous sommes tellement distraits que nous ne pouvons même pas lire la Bible, mais nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes. Alors, nous devons devenir des vrais mendiants. Nous devons tout simplement parler à Dieu comme ça. Dieu dit à Dieu que c'est complètement hors de notre portée. Mais il y a encore une autre chose. Avant de vraiment demander à Dieu, il y a quelque chose que Dieu nous dit que nous devons faire. C'est quoi? De prier comment? Avec des actions de grâce. Ça, c'est vraiment facile, n'est-ce pas? Quand on est au milieu d'une épreuve, quand il semble que tout est contre nous, c'est vraiment facile de dire « Merci Seigneur pour cette épreuve », n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment le plus difficile. De pouvoir demander à Dieu avec des actions de grâce. Je peux bien me mettre à genoux, je peux demander Dieu pour son aide, je peux vraiment crier, je peux supplier Dieu, mais est-ce que je peux vraiment remercier le Seigneur pour ses épreuves? Et souvent, l'attitude de notre cœur est aussi importante que notre obéissance à lui. Et c'est comme un enfant, encore, qui est très bouleversé par quelque chose jusqu'à ce que vous puissiez le calmer. Vous pouvez calmer son esprit, vous ne pouvez rien faire. Et la même chose avec le Seigneur. Souvent, nous nous plaignons, je ne comprends pas. Seigneur, ce n'est pas ce que j'ai pensé, pourquoi? Et Dieu attend que nous nous calmons devant lui. Et puis, Dieu, nous pouvons vraiment parler à Dieu. Nous pouvons supplier le Seigneur pour tous nos besoins. Alors, le Seigneur dit que nous devons venir comme des mendiants. Et vraiment, comme nous sommes assis en face de lui, et nous n'avons que le tas de déchets devant lui, et nous disons, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Mais la Bible aussi nous enseigne, avec des actions de grâce, et qu'est-ce qui se passe après? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vais partager un témoignage personnel. J'ai un fils qui est devenu un fils prodige. À l'âge de 18 ans, il a dit, je m'en vais. Mais le problème avec mon fils, c'était qu'il a une maladie très grave. Il a le diabète. Il a le diabète 1 et 2. Je ne sais pas, A ou B. Il avait le diabète où trois fois par jour, il devait avoir une piqûre. Sinon, il arrive dans un coma. Et nombreux de temps, il est tombé dans le coma parce qu'il ne prend soin de sa santé. Et un jour, il a dit, je m'en vais. Et j'ai dit, mon fils, si tu t'en vas, tu n'auras pas l'assurance, l'argent pour payer des médicaments. Ça coûte $500 par mois pour le médicament. Mais autant qu'il reste avec nous, c'était payé par mon assurance. Il a dit, non, ça ne me fait rien. Il est parti dans un autre état pour travailler, pour goûter le monde. Et je suis devenu vraiment inquiet. Et pendant des mois, j'étais vraiment dans un état vexé. Je me souviens une fois quand je me suis réveillé et j'avais eu vraiment un cauchemar. Et j'ai vu mon fils devant le Seigneur, devant le jugement, et j'ai entendu le Seigneur dire à mon fils, « Retire-toi de moi, je ne te connais pas. Va dans l'enfer. » Et je me suis levé, je me suis mis à genoux, je pleurais, je criais, je demandais Dieu, l'aide de Dieu, pas de paix. Je n'avais pas de paix. Et ça, pendant plusieurs mois, j'étais dans un état tellement vexé, je ne pouvais même pas me calmer devant le Seigneur. Et c'est intéressant pour moi de voir qu'aujourd'hui, c'est le 17 septembre. Le 17 septembre, j'ai écrit, il y a 10 ans exactement, j'ai écrit dans mon livre quelque chose que je vais vous lire dans une minute, mais une méditation dans ce livre. Tous les matins, malgré cette vexation, j'ai lu une page dans ce livre. Et ce matin-là, j'ai lu un passage et après l'avoir lu, j'ai écrit toute cette méditation dans mon journal. Et puis j'ai écrit une prière pour tous mes enfants. Mais c'était le 17 septembre 09. Et voilà ce que j'ai lu à ce moment-là, quand j'étais tellement vexé. Si vous voulez tourner à Marc, chapitre Marc, verset 9. Chapitre 9, Marc chapitre 9. Je vais commencer à lire cette méditation. Amenez-le moi, Marc 9, 19. Dans son désespoir, le pauvre père déçu se tournaient des disciples vers leur maître. Son fils se trouvait dans la pire des conditions possibles et tous les moyens avaient échoué. Pourtant, le misérable enfant ne tarda pas à être délivré du malin lorsque le père obéit par la foi à l'ordre de Jésus. Amenez-le-moi. Chapitre 9, le livre de Marc, à partir du verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vint autour d'une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demandait : de quoi discutez-vous avec eux ? Mais un homme, une grande foule, un homme de la foule lui répondit : Maître, j'ai emmené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet, et quelque lieu qui le saisit, il le jetait par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié des disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi. On le lui emmena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père : combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit : si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort. De sorte, plusieurs disaient qu'il était mort, mais Jésus l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier : pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? Il leur dit : cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Je vais continuer cette lecture dans ce livre. Les enfants sont un don précieux de la part de Dieu, mais beaucoup d'anxiété arrive avec eux. Ils peuvent s'avérer une grande joie ou une énorme amertume pour leurs parents. Le Saint-Esprit les emplira peut-être, ou l'esprit du mal les possédera. Quoi qu'il en soit, la parole de Dieu nous donne une recette pour la guérison de tous leurs maux. Amenez-le-moi. Oh, que nous puissions agoniser en prière pour eux, alors qu'ils ne sont encore que des bébés. Le péché est déjà là, que nos prières commencent à l'attaquer. Nos cris devant le Seigneur en faveur de nos enfants devraient précéder les cris qui annoncent leur arrivée en ce monde de péché. Dès le jour de leur enfance, vous voyez les tristes signes de la présence de cet esprit muet et sourd qui est incapable de prier correctement ou d'entendre la voix de Dieu dans l'âme. Mais Jésus ordonne cependant : amenez-le-moi. En grandissant, il se peut qu'ils iront se plonger dans le péché, et qu'ils écumeront de haine à la garde de Dieu. Alors, quand notre cœur est près de se rompre, nous devrions nous souvenir des paroles du grand médecin. Amenez-le, moi. Ne cessez jamais de prier avant qu'il ne cesse de vivre. Aucun cas n'est sans espoir tant que Jésus vit. Le Seigneur permet parfois à ses enfants d'être acculés au fond d'une impasse afin qu'ils sachent par expérience combien il leur est nécessaire. En nous montrant notre impotence face à la dépravation de leur cœur, des enfants impies nous poussent à fuir vers notre vrai refuge pour obtenir la force nécessaire. Ceci est une grande bénédiction pour nous. Quel que soit notre besoin, ce soir, qu'il soit un courant fort qui nous porte sur l'océan de l'amour divin, Jésus peut très vite faire disparaître notre chagrin et il se délecte à nous consoler. Hâtons-nous d'aller vers lui alors que lui-même se prépare à nous rencontrer. Je ne peux jamais oublier cette nuit-là, il y a 10 ans, aujourd'hui, septembre le 17. J'ai lu ce passage et mon cœur se calmait. Je ne peux pas expliquer, mais j'ai plié le genou, j'ai levé les mains vers Dieu et j'ai dit, Seigneur, mon fils, il est à toi. Il est à toi. Il n'est plus mon fils, c'est ton fils. Faites ce que vous voulez avec mon fils. Et vous savez ce qui s'est passé? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est tombée sur moi. Et vraiment, c'était la fin de la lutte. C'était terminé. J'ai réjoui dans le Seigneur ce moment-là. Et pendant les prochaines 2 années, mon fils était toujours dans le monde. Nous avons reçu de temps en temps un téléphone, ton fils est à l'hôpital. Mais je peux vous dire, j'avais la joie. J'avais la paix parce que ce n'est pas mon fils, c'était le fils. C'est le Fils de Dieu. 2 ans plus tard, nous avons entendu un petit tap à la porte. Je suis allé à la porte et voilà mon fils. Il m'a dit, papa, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Pouvez-vous me pardonner? Mon fils était restauré. Bien sûr, il y a des conséquences à payer. Il a dommagé certains organes dans son corps, mais il est sauvé. Il est maintenant l'enfant de Dieu. Et depuis ce moment-là, je peux vous dire, quand une tempête arrive, tout de suite, je me mettrai à genoux et je dis merci Seigneur. Merci pour ces épreuves. Parce que je sais que c'est toi qui as emmené ces épreuves. Retournez pour quelques instants, je serai terminé dans le livre de Jérémie, chapitre 3. On va lire verset 21. Jusqu'au 25. Voici cet homme qui a perdu sa paix, il a perdu le bonheur, il a même perdu son espérance en l'Éternel. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Une simple question. Où êtes-vous ce soir? Est-ce que la paix de Dieu, qui vraiment surpasse toute intelligence, est-ce que ça règne dans votre cœur, cette paix, malgré les épreuves, malgré les difficultés? Est-ce que vous pouvez vraiment dire ce soir, merci Seigneur pour ces épreuves? Parce que je sais que c'est toi qui règnes sur la terre. Je vais donner.